Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous du dimanche matin. Pendant une demi-heure, les propées sont aux commandes. Petit rappel pour ceux qui découvrent ce terme étrange, l'année de propée de tic permet à des hommes jeunes ou un peu moins de réfléchir, discerner une possible vocation, c'est-à-dire un appel à devenir prêtre. Aujourd'hui, calendrier oblige, les propées se sont penchées sur les fêtes de fin d'année. Ah, Saint-Nicolas, Noël, Nouvel An. Mais avant de vous en dire plus, il faut accueillir quelqu'un. Ce mois-ci, on a un petit nouveau. Blaise, tu peux te présenter ?
Merci. Je m'appelle Blaise Thibault, j'ai 33 ans, je suis togolais. J'étais un frère religieux d'ordre des Servites de Marie. Cette année, je fais mon discernement pour l'orientation vers la vie de Cézanne. Je suis en propédeutique dans le compte du diocèse de Metz.
Merci Blaise. Alors, Laurent, tu vas nous expliquer ce mois-ci quelque chose d'un petit peu particulier. On a procédé à un micro-trottoir pour parler de Noël. Ça s'est passé comment ?
Oui, tout à fait Benoît. Donc pour cette émission sur les fêtes de fin d'année, nous avons voulu vous donner la parole. Donc nous sommes venus à votre rencontre dans les rues de Nancy au mois de novembre. 14 personnes nous ont répondu, des jeunes principalement, mais pas que. Et donc, dès le début de cette émission, au nom de tous, nous vous remercions chaleureusement. Vous qui nous avez répondu. Nous vous avons posé trois questions. Quel est votre meilleur souvenir des fêtes de fin d'année ? Ensuite, les fêtes de fin d'année coûtent cher, qu'en pensez-vous ? Et la troisième, est-ce que ça sert encore à quelque chose de fêter à Noël la naissance de Jésus ?
Sans plus tarder, on va passer à la première question. Quel est votre plus beau souvenir des fêtes de fin d'année ?
Pour cette question, nous allons entendre les réponses de Jules, Laurence, Clément, Sophie, Yaël et Diane.
C'est surtout le 24 au soir, c'est quand il y a toute la famille, qu'on est réunis, puis que ouais, c'est vrai qu'on mange bien, puis c'est assez convivial, quoi. Donc, en gros, c'est plutôt sympa comme truc.
Mon meilleur souvenir des fêtes de fin d'année, c'était quand j'étais petite. On faisait la veillée de Noël chez mes parents et je devais avoir 8 ans, ouais. Et je me souviens très bien que toute la famille était réunie. Je buvais un chocolat chaud et c'était un moment de bonheur. Et je me suis dit en même temps, j'espère que ça va durer toujours. Mais je savais que le temps passerait et que ça serait plus jamais pareil puisque les gens vieillissent, disparaissent, se séparent, etc. quoi.
Bah, c'est surtout les repas en famille, en fait. C'est ça, avoir des gens qu'on voit pas forcément tout le temps. Être tous ensemble, puis oui, il y a un peu des cadeaux aussi. Hein. Mais avec le temps, ça s'estompe, c'est surtout quand on est petit.
Alors, c'est quand j'étais plus petite, quand on revenait de la messe et qu'il faisait super froid et qu'on allait boire un chocolat chaud. Et c'était trop bien. Et après, on arrivait dans la maison et on allait devant la crèche et c'était super beau.
À vrai dire, j'en ai pas. J'ai pas fait beaucoup de fêtes de fin d'année à cause du fait que ma famille est excessivement éparpillée. Je ne vois pas beaucoup ma famille, mon père, ma mère, tout ça. Donc, peut-être le jour où j'ai fait un Noël avec toute ma famille, c'était plutôt sympa.
Bah, mon dernier souvenir de fête de fin d'année, c'était l'année dernière, où j'ai retrouvé toute ma famille alors que j'étais en prépa et que j'avais travaillé. Donc c'est aussi le moyen pour moi de décompresser et de retrouver des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps.
Merci. Donc dans toutes les réponses que nous avons entendues, nous pouvons constater que la famille occupe une place très importante. Alors il peut s'agir de la famille plus un repas, la famille plus une messe de Noël ou une veillée, mais donc la famille est prédominante dans les meilleurs souvenirs des fêtes de fin d'année. Et associé à la famille, on retrouve le thème des retrouvailles et de la convivialité.
Merci Laurent. Blaise, tu viens de nous dire que tu viens du Togo. Noël au Togo, en Afrique, ça se passe comment ? Quel souvenir tu peux en avoir ?
La fête de Noël est fêtée dans les quatre coins du monde, mais de différentes manières. Noël est largement célébré un peu partout en Afrique aussi. Précisément au Togo, il y a des facteurs très locaux qui donnent une ambiance toute particulière à cette fête. Ce qui m'a marqué beaucoup à cette fête de Noël en Afrique, au Togo, il n'y a pas de distinction des riches ou des pauvres. Tous les parents essaient de faire des cadeaux à leurs enfants, même si c'est signifiant. Cette fête est spécialement réservée aux enfants. Et d'abord, Noël se prépare déjà pendant le temps de l'Avent. Et partout, il y a des décorations. Même si on n'a pas de sapin ou de la neige, on essaie de décorer les plantes et des plantes artificielles pour donner de signification à cette fête. Et on fête beaucoup en famille et en groupe.
Merci. Noël, on a encore un peu le temps d'y penser, mais hier c'était la Saint-Nicolas. En Lorraine, c'est quand même super important. L'autre, Laurent, tu peux nous en parler un peu de Saint-Nicolas ?
Alors, la légende de Saint-Nicolas et les trois écoliers, ça vous rappelle quelque chose ? Trois écoliers dorment dans une auberge. La nuit, l'aubergiste les tue, les découpe en morceaux et les met dans un saloir. Il leur vole leur argent. Saint-Nicolas est averti par un ange et arrive à l'auberge, la nuit même. L'aubergiste et sa femme avouent leur crime et Saint-Nicolas fait revenir à la vie les trois écoliers.
C'est joli ça, mais c'est juste une légende.
Eh ben non, Saint-Nicolas a vraiment existé. Il était évêque au IVe siècle en Turquie. C'est un personnage historique. Saint-Nicolas est très connu grâce à ses nombreux miracles. Les chrétiens croient en lui et le prient avec foi pour recevoir son aide.
Alors si je te suis bien, Saint-Nicolas vient de l'actuelle Turquie. Mais pourquoi est-ce qu'il est si fêté en Lorraine ? D'ailleurs, hier soir, on était à Saint-Nicolas-de-Port et il y avait une grande procession.
C'est parce qu'un Lorrain du nom d'Aubert a ramené une phalange de la main de Saint-Nicolas en 1087 dans son village nommé Port. De nombreux miracles ont eu lieu et donc les pèlerins y sont venus nombreux. Une grande église a été construite et le plus surprenant, c'est que de nos jours encore, une fête de Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre chaque année à Saint-Nicolas-de-Port avec des centaines de personnes.
D'accord, je comprends mieux. Tiens, Laurent, toi, comment tu as vécu la fête de Saint-Nicolas ? T'en as des souvenirs ?
Ben, en fait, je ne l'ai pas vécu en tant qu'enfant, mais en tant que prof. Je me souviens de l'école de Lixin-les-Roulins en Moselle. Saint-Nicolas et le père Fouettard entraient dans notre salle de classe. Les élèves avaient tous fait un dessin pour Saint-Nicolas. Le père Fouettard leur disait « Si vous êtes paresseux ou méchant, gare à vous !» Et Saint-Nicolas, lui, les encourageait à être sages et à bien travailler et il leur donnait des friandises.
Merci. Julien, toi, Saint-Nicolas, tu le fêtais encore il y a quelques années. T'as des souvenirs ?
Oui, moi j'ai des souvenirs. En fait, Saint-Nicolas, je le fêtais souvent avec mon père, parce que comme mes parents ils étaient divorcés, c'était une occasion d'aller voir mon père avec ma sœur. Et du coup, on allait voir souvent le fameux défilé de la Saint-Nicolas, qui était très bien. D'ailleurs, quand il balançait des bonbons, tous les gamins ils étaient super contents. J'en garde de très beaux souvenirs.
On ira peut-être cet après-midi.
Bring me.
Sur Fadjet et puis l'émission Grand Large. Nous continuons d'explorer un peu les fêtes de fin d'année. Dans beaucoup de familles, c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux. Laurent, il y a un lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël ?
Eh bien oui. D'après une légende hollandaise, Saint-Nicolas se promène sur un cheval au-dessus des toits. Comme il a vaincu le diable, il ordonne au Père Fouettard d'apporter des cadeaux aux enfants par la cheminée. Puis des Hollandais arrivent en Amérique avec leurs croyances. Saint-Nicolas devient Santa Claus, le gentil Père Noël rondouillard, avec son manteau rouge et blanc, son attelage de renne et ses cadeaux.
Père Noël, cadeaux, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un déferlement de décorations, c'est le rush dans les magasins, les illuminations illuminent nos villes. Noël, ça pourrait, enfin les fêtes de fin d'année, ça pourrait coûter cher. Laurent, qu'en pensent ceux qu'on a interrogés ?
Donc c'est justement l'objet de notre deuxième question. Les fêtes de fin d'année coûtent cher, qu'en pensez-vous ? Et à cette question, Clémence, Pierre, Laurence, Sophie, Jules, Sophie et Sébastien nous répondent.
Ça coûte cher et ça sert pas à grand chose. Enfin, c'est juste pour réunir la famille et généralement, il y a pas mal d'embrouilles. Donc voilà.
Eh ben, elle coûte cher. Pourquoi ? C'est, je pense, à chacun de voir ce qu'il veut dépenser, de faire au plus simple selon ses possibilités. Et c'est pas le faste qui rendra la fête plus belle.
Ça dépend comment on voit les choses. Pour moi, ça coûte pas cher parce que j'ai pas d'argent, mais je trouve quand même le moyen de fêter Noël dignement. Pour moi, ça signifie partager un repas. Alors, j'invite toujours un ami qui fait la manche. Et en général, je pense toujours à lui au moment de Noël. Et il vient chez moi. Bah, lui, il vient avec les boissons. Moi, j'achète à manger. Mais c'est pas des repas gargantuesques ni qui coûtent très cher. L'essentiel de la joie, elle est dans le partage et l'aspect festif qu'on y met, quoi.
Alors, moi, je pense que ça enlève un petit peu le sens de Noël parce que je pense que le plus important à Noël, c'est vraiment la famille et cette espèce d'entraide qu'il y a à ce moment-là. Et du coup, le fait de mettre beaucoup de dépenses là-dedans, ça peut peut-être enlever le principal caractère de Noël, qui est justement plus cette entraide, cet esprit de famille et tout.
Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui en profitent beaucoup plus que d'autres. Enfin, à Noël, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des différences dans les familles, parce qu'il y en a qui sont beaucoup mieux servis que d'autres à Noël, donc on profite pas de la même façon, quoi, mais il y en a qui ont de la chance, comme certains, quoi.
Effectivement, ça coûte cher, c'est clair. J'aspirerais à mettre moins d'argent dans les fêtes de fin d'année. Et en même temps, il y a une sorte de carcan qui se met sur nous de vouloir offrir des cadeaux. Donc il y a quelque chose de très beau dedans. Enfin, je parle là pour Noël. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui est de vouloir fêter la naissance du Christ. Et donc de manifester notre joie et notre amour à nos proches par des cadeaux. Mais voilà, j'aime bien montrer par des petites attentions plus ou des cadeaux symboliques. Plus qu'en mettant beaucoup d'argent dans ces cadeaux.
Le principal, c'est de faire plaisir, d'offrir les cadeaux et tout, et de voir le sourire des enfants une fois qu'ils les reçoivent.
Beaucoup observent le caractère commercial, peut-être trop commercial, des fêtes de fin d'année, mais disent aussi que c'est l'occasion de faire plaisir à ceux qu'on aime. On entend aussi parler d'inégalités. Effectivement, tout le monde ne fête pas Noël de la même manière. Mais peut-être aussi que ces inégalités, c'est l'occasion de s'ouvrir à la dimension du partage. On peut aussi fêter ces fêtes de fin d'année, Noël en particulier, plus simplement habité par une joie intérieure.
Alors Laurent, t'as interviewé pas mal de personnes. À ton tour, toi, la préparation des fêtes de fin d'année, ça te coûte cher ?
Alors, par rapport aux cadeaux, je dois dire que je n'ai jamais dépensé des sommes colossales. Bien sûr, j'ai toujours offert des petits cadeaux. Et à ce propos, j'ai une anecdote. Donc, lorsque je demandais les années passées à mon père ce qu'il voulait que je lui offre à Noël, il me répondait de la manière suivante en me disant que son plus beau cadeau, c'était ma présence. Alors, je trouve ça plutôt beau, puisque pour moi, Noël, avant d'être des présents, c'est une présence. Présence des autres, présence de Dieu également.
Oh, c'est bien dit tout ça. Donc, parallèlement à l'achat de cadeaux, il y a peut-être d'autres manières, un peu plus personnelles ou intérieures, de préparer Noël. Nivan et Julien, je crois que vous aviez des choses à nous dire. Qui commence ?
C'est moi. Je voulais parler un petit peu du côté spirituel de l'Avent. Étant donné que l'Avent, c'est une période de 4 semaines qui précède Noël et qui marque le début de l'année liturgique. L'année liturgique, c'est, pour faire simple, c'est pour les chrétiens, il y a un calendrier, le calendrier religieux, et à côté, il y a le calendrier civil. L'année liturgique c'était le dimanche 30 novembre. Et donc, elle marque le début de la période de l'Avent. On dit que l'Avent, c'est un petit carême en opposition au grand carême qui a lieu avant la fête de Pâques. J'expliquerai un petit peu après pourquoi on l'appelle petit carême. Bon, tout d'abord, l'Avent, c'est quoi ? L'Avent, c'est un temps de préparation, hein, préparation à Noël, durant lequel, en fait, la triple venue du Christ. Le Christ qui est né à Bethléem il y a 2000 ans, le Christ qui vient dans nos cœurs tous les jours, et le Christ qui reviendra à la fin des temps. Donc, ce temps de préparation, ce qui en fait un moment particulier, c'est qu'il est marqué par la joie. La joie de se préparer à accueillir le Christ dans nos cœurs. Et pour se préparer à cet accueil, il y a un travail sur soi. Un travail de conversion, c'est-à-dire un changement dans sa vie. Cela implique une vigilance dans la prière. On essaie de prier beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus intensément. Ce travail implique aussi de faire la paix en soi, autour de soi, si on a des conflits. C'est aussi un travail pour essayer de faire silence dans notre cœur face aux sirènes des supermarchés. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, l'Avent c'est un petit carême en opposition au grand carême parce que depuis le Concile Vatican II a supprimé le jeûne et l'abstinence pour la période de l'Avent. Alors que le Grand Carême, la période qui précède, qui a lieu avant Pâques, l'Église demande toujours, encore et toujours, le jeûne et l'abstinence. Voilà à peu près.
On pourra se lâcher alors sur les fêtes de réveillon.
Oui, c'est ça.
Ok pour la préparation intérieure. Mais il y a aussi des décorations, des manières extérieures de se préparer à Noël, il n'y a qu'à regarder dans les rues. Julien, tu as quelque chose à nous dire là-dessus ?
Oui, ben je vais vous parler de deux grands symboles de Noël. Un qui est plus religieux et un autre qui est un peu plus civil. Pour commencer, je vais commencer par le religieux, c'est la fameuse couronne de l'Avent. Donc pour la petite histoire, elle est née en Allemagne par un pasteur protestant qui a accueilli des orphelins qui s'occupaient d'eux. Et un jour, certains orphelins étaient pressés de fêter Noël et donc ils répétaient tous les jours pour savoir quand allait venir Noël. Et du coup, le pasteur, pour les faire attendre, il leur créa une sorte de compte à rebours et c'est comme ça qu'est née la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent a été reprise maintenant dans plusieurs pays et s'est répandue dans les autres religions chrétiennes, notamment catholiques et orthodoxes. Pour la symbolique, la couronne de l'Avent, c'est un cercle, avec la couleur verte qui est le symbole de la vie, les quatre bougies qui représentent les quatre points cardinaux, et la flamme qu'on allume représente Jésus qui vient éclairer le monde petit à petit, progressivement, jusqu'à Noël où il éclaire le monde entièrement. Ensuite, pour le deuxième symbole, c'est le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est un symbole civil, mais à la base, c'était un symbole religieux qui est né aussi en Allemagne par un éditeur de livres qui créa une sorte de calendrier avec 24 fenêtres qui se trouvait à l'intérieur des images pieuses avec des phrases d'évangile pour les enfants chrétiens pour qu'ils puissent se préparer à Noël. Ensuite, une quarantaine d'années plus tard, on a remplacé les images pieuses par des chocolats. Et donc aujourd'hui, ce symbole a entièrement perdu son sens religieux, mais c'est quand même répandu dans beaucoup de pays de nos jours.
Merci Julien. Au fait, Nivan, on sera en vacances, nous, à Noël, à la Propée, mais comment on s'y prépare? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues?
Oui, déjà pour ce temps de l'Avent, on se prépare à accueillir l'arrivée des évêques de Lorraine, qui vont fêter, qui seront avec nous pour les fêtes de fin d'année. Et même dans la prière communautaire, les chants ne sont pas les mêmes, dans les hymnes, voilà. Sinon, nous avons déjà une couronne de l'Avent. Il ne nous manque plus que le sapin.
Voilà. Ah, oui, le sapin, on va aller le chercher bientôt. Et puis, on va installer une crèche quand même.
Oui, une crèche quand même.
Merci. Eh bien, on se retrouve après une petite pause musicale. Sur Grand Large, avec les autres propés, on essaye d'explorer les fêtes de fin d'année. Laurent, il y avait une troisième question, c'était quoi au fait?
Oui, alors la troisième question que nous avons posée à des personnes dans la rue à Nancy est la suivante: est-ce que ça sert encore à quelque chose de fêter à Noël la naissance de Jésus? Alors nous allons écouter les réponses de Baptiste, Sandrine, Nicolas, Sébastien, Éléonore et Yaël.
Ah oh bah oui, parce que la naissance de Jésus, c'est symbolique, donc c'est bien, c'est toujours bien de le fêter.
Fort heureusement, je suis très croyante, très pratiquante, et pour moi, le premier sens de Noël, c'est la naissance de Jésus. Ça, c'est indéniable. Après, beaucoup de gens ne mettent pas ça en avant, mais c'est avant tout la naissance de Jésus. On se réjouit. Bon, après qu'on se réunisse en famille, qu'on soit heureux de partager cette fête, qu'on se fasse des cadeaux, il y a pas de problème. Qu'on mange des choses, pas de problème. Mais c'est avant tout la naissance du Sauveur qui s'est fait petit dans cette étable, et c'est avant tout ça Noël pour moi.
Oh, moi je pense pas, parce que maintenant Noël et les fêtes de fin d'année, c'est devenu c'est plus religieux, ça a plus aucun sens religieux, je trouve. Et non, je pense plus. Il y en a encore qui le font, je pense, mais je pense que maintenant, vu dans le monde où on est, je pense que ça a plus trop de... La religion a plus rien à voir là-dedans, je pense.
Pour moi, non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, non, parce qu'il a jamais rien fait pour nous et tout. Mais dans un sens, ça rapproche la famille.
Oui, c'est sûr. Oui, ça a du sens. Ça a du sens de fêter Noël. Déjà, quand on va à la messe tous les dimanches, ça a du sens parce que c'est la naissance de Jésus. Et pour ceux qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, c'est aussi une petite piqûre de rappel parce qu'ils vont à cette messe-là et du coup, voilà, ils en profitent autrement et peut-être qu'ils redécouvrent à chaque fois un petit peu plus la foi.
Je ne suis pas du tout religieux ni croyant. Du coup, c'est pas quelque chose auquel je pense en fait, au fait de fin d'année. Après, pour je pense les gens qui ont ces croyances, je pense que c'est encore utile. Enfin, voilà. Mais pas de mon point de vue à moi.
Certains qui se disent non-croyants pensent, comme nous venons de l'entendre, que ça ne sert plus à rien de fêter à Noël la naissance de Jésus, mais d'autres notent tout de même le caractère symbolique de la fête. Et pour les croyants, évidemment, cette fête a une très grande importance dans leur foi.
Virgile, tu vas peut-être nous dire quelle importance ça a. Noël chez les cathos, ça se passe comment?
Alors, je vais vous définir ce que c'est Noël chez les cathos. Mes très chers auditeurs, Noël est un mot qui signifie, et qui vient du latin, natilis, qui signifie naissance. La date de naissance de Jésus est fêtée par les chrétiens le 25 décembre, jour de Noël. Avec incertitude, les historiens estiment la naissance de Jésus dans les dernières années du règne d'Hérode Ier le Grand, mort 4 ans avant Jésus-Christ. Ça fait un peu plus de 2000 ans que les chrétiens fêtent Noël et la naissance de Jésus. Cette naissance est la joie de Dieu et la joie des hommes. Tous les ans, la nuit du 24-25 décembre, les chrétiens vont à la messe de minuit dans leur paroisse ou cathédrale, en famille ou seuls. Dans certaines paroisses, les enfants font une crèche vivante. Ils jouent les personnages de la crèche, Joseph, Marie, les bergers et bien d'autres personnages encore. Deux semaines après Noël, les chrétiens fêtent l'Épiphanie. C'est la venue des rois mages chez Jésus avec des offrandes, encens, myrrhe et or.
Merci Virgile, t'as parlé de crèche vivante, mais je crois que tu as déjà participé.
Oui, j'ai déjà participé à une crèche vivante. Donc c'était quand entre l'âge de 10 ans et 14 ans, à la messe de minuit à Trois-Fontaines dans ma paroisse d'origine. J'ai joué dans une crèche vivante avec ma sœur et des amis. Mon rôle était Joseph. Pour moi, c'était une très belle expérience et je recommande aux enfants de le faire si c'est possible.
Merci Virgile. Alors on l'a vu, en écoutant les témoignages et puis en nous écoutant aussi, il y a plein de manières différentes de fêter les fêtes de fin d'année. On espère vraiment que vous trouverez la vôtre. On vous souhaite un joyeux Noël, une très bonne année et on se retrouve pour la prochaine émission le 5 janvier sur le thème du vivre ensemble. On va parler un peu de la vie communautaire. À bientôt.